Donc, ce matin, on débute une nouvelle série pour toute la semaine. Encore un verset qui m'est cher et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Mais avant ça, on va prier, après quoi on va débuter pour ce matin. Alors, Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette matinée et pour l'occasion que tu nous donnes encore aujourd'hui d'être réunis, chacun chez soi, ou dans différents lieux, que ce soit ici au Québec, dans les quartiers de Montréal ou même, Seigneur, à l'étranger, puisque plusieurs se joignent à nous. Donc, nous voulons, Seigneur, que tu nous bénisses cette semaine. Nous voulons disposer nos cœurs, notre entendement, afin de recevoir de ta part. Tu sais ce que nous avons besoin d'entendre. Tu sais, Seigneur, ce que nous avons besoin d'apprendre, ce que tu veux nous enseigner. Et nous te disons, Seigneur, fais comme il te plaît. Parle-nous comme il te plaira, afin, Seigneur, de nous transformer, de nous changer et de nous permettre, Seigneur, de nous approcher de ce souhait, de ce désir, de cette vision que tu as pour chacun d'entre nous. Alors, je bénis ma sœur ce matin, je bénis mon frère ce matin et que ta grâce, Seigneur, leur soit accordée, afin, Seigneur, qu'ils prennent les bonnes décisions, qu'ils s'orientent comme toi tu le désires dans le chemin que tu traces devant eux. Et qu'il soit pour toi, Seigneur, des champions et des héros. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je lis pour vous le verset qui est la thématique pour cette semaine, puis après ça, j'explique un peu pourquoi ce verset-là m'est cher, dans quel contexte il est venu me chercher. Un verset, bien sûr, que l'on connaît beaucoup. Ézéchiel au chapitre 22, verset 30. Ézéchiel 22, 30, probablement le verset le plus populaire ou le plus célèbre du prophète Ézéchiel. « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Je répète, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. » Ce verset-là m'a été donné lors de mon premier voyage en Afrique. À l'époque, mes parents étaient missionnaires au Congo, à Pointe-Noire, et depuis environ 6 mois ou un peu plus, il y avait une guerre civile qui sévissait dans le pays, qui était essentiellement dans la capitale, donc Brazzaville, mais le soutien qu'on envoyait mensuellement à mes parents était détourné. C'était pas encore l'Internet, c'était pas encore des transferts Interac, mais c'était ce qui s'apparentait à cela avec des transferts bancaires. Et une fois arrivé à Brazzaville, le transfert disparaissait et ça faisait plusieurs mois. Les communications devenaient de plus en plus ardues en raison de la guerre civile qui avait éclaté. Et on a décidé, avec la direction de l'Église, de m'envoyer à Pointe-Noire pour aller visiter mes parents et voir si on les maintenait en place ou si on les rapatriait quelque part d'autre en Afrique ou voire même jusqu'à Montréal. Et en fin de compte, effectivement, ils sont allés pendant un certain temps par la suite avec moi jusqu'en Côte d'Ivoire. Ils sont restés, je suis rentré à Montréal. Et puis, presque un an plus tard, ils sont donc revenus de façon définitive sur Montréal. Ils n'ont plus habité au Congo. Mais mon père et ma mère, en tout cas mon père y est retourné pour visiter les frères et les sœurs là-bas, au moins à une occasion. Et juste avant que je parte, je savais dans quel contexte j'allais là-bas et que c'était la guerre civile. Et Dieu m'avait donné ce message-là. Un message que j'ai eu l'occasion de prêcher. Et pour moi, ça a été en même temps l'occasion d'accomplir ou de réaliser un rêve. Ceux qui me connaissent savent qu'à une certaine époque, je voulais être politicien et je voulais changer les choses dans la société et je rêvais de faire quelques discours politiques. Et la dernière prédication que j'ai faite à Pointe-Noire était sur ce passage que Dieu m'avait donné depuis Montréal. Et je parlais à une assistance qui englobait non seulement les leaders religieux de la ville, donc tous les pasteurs, l'association des pasteurs évangéliques de Pointe-Noire, mais de surcroît à ça, il y avait plusieurs représentants de l'État qui étaient là. Et honnêtement, ça a été à la fois une prédication et à la fois un discours politique. Et certains, j'ai eu vent par la suite que ça a été non seulement un impact pour leur vie, mais dans les décisions, notamment que la gendarmerie a eu à prendre une ou deux semaines, peut-être un peu plus, après notre départ de Pointe-Noire, quand la ville a été envahie par ce qui était à l'époque les rebelles, qui sont devenus par la suite l'armée et qui ont pris le contrôle de la ville. Le chef de la gendarmerie, qui était chrétien, a dit que si Pointe-Noire ou si la ville se faisait prendre, que les gendarmes devaient baisser les armes, qu'il ne devait pas y avoir de bain de sang, parce que si Dieu devait reconstruire le pays, il le ferait avec Pointe-Noire, avec la ville. Et ce chef des gendarmes était là le jour de ma prédication. Donc pour moi, ça reste un moment important et un verset important que je vais avoir l'occasion donc de décortiquer avec vous durant cette semaine. Alors, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Donc aujourd'hui, on va simplement s'arrêter sur je cherche un homme. Mardi, on va dire je cherche un homme qui élève un mur. Mercredi, je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Jeudi, je cherche un homme qui se tienne devant moi. Et vendredi, je cherche un homme qui se tienne devant moi en faveur du pays. Et le constat malheureux que Dieu dresse, c'est qu'il cherche, mais il n'en trouve pas. Et c'est un malheur en passant que c'est le peuple d'Israël, c'est supposé être le peuple de Dieu. C'est un peuple qui a une expérience de plusieurs siècles, de nombreux siècles. À vivre dans la présence de Dieu, à vivre dans la crainte de Dieu. Et là, lorsqu'on arrive à l'époque d'Ézéchiel, Dieu regarde son peuple, sa nation, et il dit, parmi tout le peuple, il ne trouve pas ce qu'il cherche. Et foncièrement, ce chapitre parle spécifiquement, dans les versets qui précèdent et qui suivent, on parle spécifiquement des leaders, donc des leaders politiques, et des leaders religieux, et vous comprenez donc pourquoi ce verset-là était important dans le contexte où je l'ai prêché il y a déjà plusieurs années, il y a une douzaine d'années, si je ne m'abuse, à Pointe-Noire. Parce que j'avais l'auditoire devant moi qui était effectivement des hommes de foi, des hommes religieux, des pasteurs, des leaders religieux, ainsi que des leaders de la société civile. Et Dieu disait dans le passage d'Ézéchiel que tant les leaders politiques, les leaders sociaux, que les leaders religieux avaient maltraité le peuple d'Israël, qu'ils s'étaient tout simplement servis du peuple pour s'enrichir, pour faire la rapine, le vol, et qu'ils avaient maltraité le peuple. Et Dieu dit qu'il va envoyer sa vengeance, mais qu'avant qu'il n'envoie sa vengeance, avant qu'il n'envoie sa condamnation et sa punition, il cherche au moins s'il peut trouver un homme qui va être capable d'intercéder en faveur du pays. Mais il fait le triste constat que dans cette génération, il n'en trouve pas. Et je prie que dans notre génération, si Dieu regarde, il puisse trouver non pas simplement un homme, non pas simplement quelques hommes, mais qu'il puisse en trouver de nombreux. Et quand je parle d'hommes ici, je parle pas uniquement du genre masculin, mais bien entendu de tout humain, homme, femme confondus. J'espère que lorsque Dieu regarde notre génération, qu'il peut trouver ce qu'il cherche. Alors voyons voir ce qu'il cherche. Je cherche un homme. Je cherche parmi eux un homme. Chercher, c'est le terme bakash. Bakash. Je répète, Bakash. Et qui veut dire chercher, qui veut dire exiger. Ça veut dire que la recherche que Dieu fait, il n'a pas de compromis. Il a quelque chose de précis qu'il cherche. C'est quelque chose qu'il désire, qu'il demande avec ardeur. C'est pas une option, c'est pas quelque chose qui peut-être, si on le trouve éventuellement, ça serait correct. Non, c'est vraiment quelque chose qu'il cherche avec ardeur, avec passion, avec une volonté ferme. Mais malgré sa recherche intense, il n'en trouve pas. Donc Dieu, encore aujourd'hui, il y a des choses qu'il cherche ardemment. Dieu, encore aujourd'hui, pour notre génération, puisque sa parole est encore effective parmi nous, Dieu est encore pour notre génération, pour notre contexte de société, pour l'histoire qui est la nôtre actuellement et l'histoire de notre génération actuelle. Dieu cherche encore un homme, ou Dieu cherche encore des hommes qui vont être à la hauteur de ses attentes pour accomplir ce à quoi Dieu a mis son cœur. Et cette chose que Dieu voulait, c'était de ne pas détruire Israël, de ne pas infliger à Israël une sanction si terrible qu'il pourrait ne pas se retrouver de survivant à cette explosion de la fureur de Dieu. Et on sait qu'éventuellement, la sanction qui a déjà été entérinée suite au péché d'Adam et Ève va arriver, va s'accomplir. Et on sait que notre génération, à moins qu'elle ne se tourne vers Dieu, à moins qu'elle ne se tourne vers le Sauveur, notre génération, comme nous l'étions nous aussi avant de rencontrer Jésus, est destinée à une condamnation éternelle. Et le désir de Dieu, ce n'est pas que les hommes se perdent. Le désir de Dieu, ce n'est pas que les hommes aillent tous et chacun en enfer. Le désir de Dieu, c'est de nous sauver. Et voilà pourquoi encore aujourd'hui, il cherche un homme qui va être capable de faire un tampon entre lui et les humains et d'agir dans la réconciliation entre les hommes et Dieu. On a eu l'occasion à plusieurs reprises de parler depuis le début de la pandémie de ce désir que Dieu a pour nous, que nous soyons des ambassadeurs qui représentent son royaume, mais des ambassadeurs qui travaillent à la réconciliation entre notre génération et Dieu. Et il est encore aujourd'hui important de le mentionner. C'est ton travail, c'est mon travail d'être cet ambassadeur, d'être ce réconciliateur entre les hommes et Dieu. Alors Dieu se cherche parmi eux. Ça veut dire que Dieu regarde l'ensemble, regarde la masse et il dit « j'aimerais trouver parmi eux, mais j'en trouve pas ». Alors Dieu cherche quelque chose qui sorte de la masse, quelque chose qui sort du lot, quelque chose qui est différent. C'est comme si l'ensemble du peuple d'Israël de cette génération se ressemble dans la parjure, se ressemble dans le péché, se ressemble dans l'iniquité, mais qu'il n'y en a aucun d'entre eux que Dieu pourrait utiliser, en qui Dieu pourrait placer sa confiance, que Dieu pourrait élever comme étant son serviteur. Il semble qu'il n'en reste aucun. Et quelle tristesse! Et vraiment, l'interrogation pour moi et pour toi aujourd'hui, c'est de savoir, mais si Dieu a cette même quête en 2020, est-ce que moi, je pourrais sortir du lot à un point où Dieu dit, oui, effectivement, celui-là, je peux l'utiliser. Alors, qu'est-ce que Dieu cherche? Le terme « homme », c'est le terme « yish ». Et Yish, donc apostrophe I-Y-S-H, je répète, apostrophe I-Y-S-H, et j'ai sorti 5 synonymes de homme, ou 5 déclinaisons de homme qui peuvent être traduits dans la Bible et dans les différentes versions que nous avons par ces 5 déclinaisons les plus courantes. Donc le premier, c'est que Dieu cherche un homme. Mais un homme comment? Un homme différent. Dieu cherche un homme différent. Un homme qui a accepté de ne pas se conformer au siècle présent, un peu comme hier on a eu l'occasion de le mentionner dans la prédication du dimanche matin. Un homme qui ne se conforme pas au siècle présent. Un homme qui ne se fonde pas dans la condamnation de cette génération-ci. Un homme qui n'est pas similaire dans ses pratiques aux péchés, aux iniquités qui sont commises dans cette génération-ci. Un homme qui n'est pas dans le laisser-aller par rapport aux préceptes de Dieu, comme on pourrait le voir aujourd'hui. On dirait que Dieu est lui-même en train de faire l'intercession qu'Abraham aura eu à faire par rapport à Sodome et Gomorre. Quand Dieu veut aller condamner Sodome et Gomorre, Abraham, qui parle avec son Seigneur, lui dit, « Mais regarde, Seigneur, s'il s'en trouve 50, est-ce que tu vas détruire la ville malgré ces 50? » Et Dieu dit, « Regarde, si j'en trouve 50, je vais épargner la ville. » Et Abraham va dire, « Oui, mais si tu en trouves simplement 20, est-ce que tu vas détruire la ville? » Et Dieu va lui dire, « Regarde, si j'en trouve 20, je vais pas détruire la ville. » Mais il dit, « J'en trouverai pas 20. » Et Abraham dit, « Mais si tu en trouves simplement 10, est-ce que tu vas détruire la ville malgré ces 10-là? » Et Dieu cède, ou Dieu approuve la négociation d'Abraham en faveur de la peuplade ou à faveur des habitants de Sodome et Gomorre, mais on sait qu'il s'en trouve même pas 10, mais que Dieu, malgré tout, en raison de l'intercession d'Abraham, va quand même sauver Lot et sa famille. Et ici, dans le chapitre d'Ézéchiel, au chapitre 22, on dirait un peu que c'est Dieu qui est en train de faire cette même négociation avec la génération qui est devant lui. Est-ce que vous pourriez me donner un homme? Est-ce que je pourrais trouver un homme parmi vous qui serait différent? Un homme que je pourrais utiliser, un homme en qui je pourrais me confier. Dieu cherche un homme, oui, mais Iish peut aussi être décliné dans le terme serviteur. Dieu cherche un serviteur. Est-ce que tu seras cette servante? Est-ce que je serai ce serviteur? Est-ce que tu seras ce serviteur? Est-ce que nous serons cette cohorte de serviteurs que Dieu voudrait utiliser aujourd'hui? Et quelle est la marque qu'on attend particulièrement d'un serviteur? Quelle est cette chose qui fait qu'un serviteur se démarque? En général, c'est la fidélité de ce serviteur. Il sert fidèlement, il sert de façon constante, il sert de façon dévouée, et tout ça rentre dans le terme fidèle. Dieu se cherche un serviteur fidèle, un serviteur qui est là aujourd'hui, mais qui sera encore là demain, qui est là aujourd'hui dans une saison peut-être qui est facile pour lui, mais qui sera là demain dans une période de sa vie qui sera un peu plus complexe ou un peu plus difficile ou un peu plus demandante. Est-ce que Dieu peut nous regarder comme nous si nous étions effectivement des serviteurs fidèles? Rappelons-nous que la salutation que Dieu fait à ses enfants lorsqu'ils passent dans l'éternité, c'est bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, est-ce que nous sommes bons? Est-ce que nous servons bien Dieu? Est-ce que nous sommes fidèles au service de Dieu? Peut-être que Dieu regarde l'Église aujourd'hui avec un grand E ou avec un petit E, peu importe, et il se demande et il pose la question, est-ce que je trouverai parmi eux un serviteur bon et fidèle? Est-ce que je trouverai parmi eux une servante bonne et fidèle? L'autre déclinaison qu'on utilise aussi pour Iish, c'est un mari. Et qu'est-ce qu'on attend d'un mari? La Bible nous le dit à plusieurs reprises, « Marie, aimez vos femmes comme vous-même, comme Christ a aimé l'Église. » Donc, on cherche ici quelqu'un qui a la qualité de ce mari qui aime, ce mari qui est là pour protéger son épouse. Et ici, un serviteur, un homme qui va avoir ses caractéristiques maritales de celui qui se porte au secours de sa bien-aimée, celui qui se porte au secours de l'être aimé. Et là, comme je le disais tout à l'heure, c'est autant bon pour un homme que pour une femme. Dieu cherche un serviteur qui va aimer cette génération. Oublions pas, il cherche un homme qui va élever un mur, qui va se tenir à la brèche dans cet endroit qui est plus faible, à travers lequel la vengeance de Dieu peut passer. Et pour faire ça, faut aimer les gens, faut aimer notre génération. Dieu voulait quelqu'un dans la génération d'Ézéchiel qui aime assez le peuple d'Israël pour intercéder devant Dieu, pour que Israël ne soit pas châtié. Est-ce que nous aimons assez notre génération pour faire ainsi? Est-ce qu'on aime notre génération pour s'identifier à elle? Parce que celui qui se place à la brèche, c'est celui qui va dire à Dieu, avant que la vengeance ne tombe sur ce peuple, elle doit traverser par cet endroit et elle doit tomber sur moi. Le même exemple que le fiancé, l'époux de l'Église, qui est Jésus. Jésus qui a tellement aimé l'Église, qui est mort pour elle, qui est mort pour ce salut. Jésus qui a payé les offrandes de cette Église, les offenses de cette génération perdue pour la racheter, pour la sauver. Jésus qui a pris sur lui, sur ses épaules, mes péchés, tes péchés, tes iniquités, mes iniquités, pour qu'on puisse être appelés ensemble, conjointement, l'épouse de Christ. Donc Jésus nous a montré comment il a aimé son épouse et comment il s'est donné pour elle, et on est appelé à faire de même. Pour notre génération, ce qui va se passer à travers notre génération, le châtiment qui tombe sur elle, le châtiment auquel elle est vouée de par sa nature pécheresse, devrait nous laisser incapables de faire du surplace, de laisser ce châtiment tomber sur eux sans qu'on ait tenté de la sauver, sans qu'on ait tenté d'intervenir pour l'amener vers le salut, vers la grâce et vers la rédemption. Donc, est-ce qu'on a cette caractéristique de ce mari qui aime assez son épouse pour offrir sa vie pour elle, qui aime assez sa génération pour offrir sa vie pour celle-ci? De surcroît, à l'homme, au serviteur, au mari, Iish est aussi interprété comme grand homme, comme quelqu'un qui est de stature imposante, mais pas au niveau de la corpulence, mais au niveau de l'ampleur, des capacités, au niveau du leadership. Donc Dieu se cherche aussi un leader dans cette génération. Un leader qui va faire quoi? Un leader qui va rassembler les gens autour de lui pour marcher devant Dieu. Un leader qui va conduire son peuple dans la crainte de Dieu. Et c'est ça que Dieu va reprocher à la génération d'Ézéchiel. C'est ça qu'il va reprocher aux autorités civiles, aux autorités politiques de l'époque, que ce soit les leaders sociaux, et qu'il va reprocher aussi aux leaders spirituels de l'époque, aux sacrificateurs et aux lévites et à ceux qui servent dans le temple. C'est la même crainte que j'ai par rapport à cette génération-ci. Dieu va-t-il être capable de trouver des hommes d'une intégrité telle qu'ils peuvent conduire, rassembler un peuple pour les faire marcher devant Dieu dans la crainte de Dieu, dans le respect de ses préceptes? Régulièrement, honnêtement, tout prédicateur vous le dirait, on aimerait vous enseigner des choses où on dit que Dieu est grand, que Dieu est bon, que Dieu va vous utiliser, que la bénédiction de Dieu va vous accompagner, qu'il est content avec vous, qu'il est là pour pourvoir et tout ça. Mais en contrepartie, nous savons aussi que notre Dieu est un Dieu exigeant, qui demande de nous un attachement, qui demande de nous une marche dans la crainte, dans la sanctification, dans la sainteté, et que Dieu cherche un tel peuple. Et si nous, on ne veut pas que vous partiez, que vous ne vous détourniez sur des voies connexes qui vous éloigneraient de Dieu par une définition d'un Dieu qui est là simplement pour nous donner des bonbons, mais qui n'est pas là pour être le juste juge qu'il est, qui n'est pas là pour regarder et sanctionner notre marche, qui n'est pas là pour juger la démarche et la conduite et la vie que nous menons, ça serait aussi vous laisser partir dans l'égarement. Et voilà pourquoi il est important de revenir à ce que nous dit la parole et de vous enseigner à être ses serviteurs, ses servantes, ses disciples que Dieu veut qu'on soit. Mais ça prend des leaders pour faire ça. Et chacun d'entre nous, peu importe quelle est ta position dans l'Église, peu importe quelle est ta position dans la société, tu as un rôle de leadership, que ce soit auprès d'un fils, que ce soit auprès de tes enfants, que ce soit auprès de frères, sœurs, que ce soit auprès de tes parents, que ce soit auprès de ton cercle d'amis. De par le respect qu'on te voue, de par l'attention Comptez-vous de par les responsabilités que tu occupes, tu as malgré tout, même si c'est un cercle restreint, même si c'est peu de monde, mais tu as quand même un rôle de leader. Et pour ce rôle de leader, tu seras appelé en jugement. Et Dieu se cherche un leader dans cette génération, dans le cercle que tu représentes, dans le cercle d'amis, dans le cercle familial, dans le cercle de proches que tu as. Dieu t'attend comme étant un leader qui va rassembler les gens et qui va les impacter, qui va avoir un impact sur eux pour les faire marcher dans la crainte de Dieu. C'est ta responsabilité, comme il est aussi de ma responsabilité d'exercer ce leadership auprès des gens auxquels Dieu me permet d'exercer un certain rôle. Donc, un homme, un serviteur, un mari, un leader, et le dernier mot qui est un beau mot que j'utilise régulièrement pour saluer des jeunes hommes plus jeunes que moi ou des petits garçons. Un mot que j'emprunterai au feu mari de Céline Dion, un champion. René Angélil avait l'habitude d'appeler les hommes champions. Et Dieu se cherche un champion. Mais c'est quoi un champion? Un champion, c'est quelqu'un qui va faire quelque chose qui le démarque des autres. Quelqu'un qui va faire un exploit. Quelqu'un qui va faire quelque chose qui compte. Quelqu'un qui va faire quelque chose qui est valorisé aux yeux de ceux qui l'acclament. Et ici, Dieu se cherche un champion. Dieu se cherche une championne. Je me rappelle d'athlètes étant plus jeunes qui étaient pour moi des champions. Je rêvais. J'étais un fan des Nordiques et non pas des Canadiens, vous le savez. Et moi, c'était Peter Stachny. C'était l'athlète par excellence. Par la suite, ceux qui sont un peu plus européens, j'avais certains cyclistes qui sont devenus des champions, Miguel Indurain, Pedro Delgado, pour ne nommer que Bernard Hinault, qui a remporté le Tour de France, étaient des champions pour moi. J'aimais les voir courir et concourir auprès de leurs adversaires. Il y a eu des boxeurs qui étaient des champions pour moi. Un des boxeurs qui encore aujourd'hui, je suis un grand fan, Manny Pacquiao, qui est en passant chrétien et qui mène une vie, on l'appelle son sobriquet lorsqu'il rentre sur le ring. Vous verrez qu'il s'appelle le combattant humble, The Humble Warrior. Et pour moi, c'est plus que ça, c'est un humble champion. C'est un champion qui est humble, mais c'est des gens qu'on regarde, qui accomplissent quelque chose, et Dieu cherche un champion. Dieu te regarde et te lance le défi d'être un champion et une championne pour elle, d'être un champion et une championne dans cette génération-ci. Regarde, cette génération-ci comme celle qui nous ont précédés jusqu'à aujourd'hui, à moins qu'elles ne se tournent vers le Sauveur, elles s'en vont en enfer. Dieu se cherche un champion, une championne, qui va faire que au moins un, au moins quelques-uns, au moins plusieurs se détournent de leur mauvaise voie et aillent pour l'éternité en la présence du roi. Alors, est-ce que tu seras ce champion? Souvent, un champion, dans le temps des rois, des monarques, c'était des chevaliers. Ces chevaliers qui couraient au secours de la veuve, de l'orphelin, de l'indigent, de celui qui était maltraité. On avait cette idée chevaleresque de ces hommes qui se portaient au front pour secourir leurs concitoyens. Dieu cherche de tels hommes aujourd'hui. Et je prie qu'il te trouve. Dieu cherche de telles femmes aujourd'hui. Et vraiment, mon désir, c'est qu'il te trouve pour être ce champion et cette championne. Alors voilà ce qu'on avait pour débuter cette semaine. Dieu se cherche parmi eux un homme, quelqu'un qui va sortir du lot pour faire un travail précis que Dieu a à cœur. Et Dieu cherche ardemment. Je prie qu'on signe cette même réponse qu'Ésaïe. Seigneur, si tu te cherches quelqu'un, me voici, envoie-moi. Amen. Alors on va prier, puis après ça, je vais saluer nos autres personnes qui se sont jointes à nous et vous rappeler les rendez-vous de cette semaine. Seigneur, quelle façon de démarrer cette semaine, en sachant, Seigneur, que tu as une quête, Tu avais une quête à la génération d'Ézéchiel, mais tu as cette même quête aujourd'hui, de trouver un homme, une femme, sur qui tu peux compter pour travailler au salut de cette génération. Seigneur, je ne peux pas prier pour ou parler pour les autres, je ne peux que parler pour moi-même. Mais je sais, Seigneur, combien ces gens qui nous écoutent ce matin t'aiment. Combien certains d'entre eux ont déjà fait d'énormes sacrifices pour toi, pour ton Église, pour ton royaume. Je prie, Seigneur, que lorsque tu regardes ces hommes, lorsque tu regardes ces femmes, tu trouves effectivement, Seigneur, des gens qui diffèrent par rapport à leur génération, qui ne sombrent pas dans l'iniquité, qui ne sombrent pas, Seigneur, dans le péché, mais qui vivent intègrement selon tes préceptes. J'espère, Seigneur, que tu trouves des hommes, des femmes qui sont des serviteurs et des servantes fidèles, bons et bonnes. Je prie, Seigneur, que tu trouves parmi nous, Seigneur, des hommes qui sont avec ces mêmes caractéristiques qu'un mari aimant, qu'une épouse aimante, prêt à donner sa vie pour l'être aimé, prêt à donner sa vie pour cette génération-ci. Je prie, Seigneur, que tu trouves parmi nous, quel que soit le stade où nous sommes et quelle que soit l'envergure de nos dons ou de notre appel, que tu trouves parmi nous, Seigneur, des leaders charismatiques, des leaders, Seigneur, qui rassemblent, mais des leaders, Seigneur, qui amènent un groupe, une nation dans la crainte de Dieu. Je prie enfin, Seigneur, que tu trouves parmi nous ce champion, cette championne, ces champions qui marqueront la différence dans cette génération-ci. Et Seigneur, je prie pour moi. J'ai déjà eu l'occasion de te le dire, mais je te répète encore, Seigneur. Et je prie que mes frères et mes sœurs se joignent à moi. Si tu te cherches quelqu'un, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Fais de moi, Seigneur, ce que tu voudras. Afin, Seigneur, que cette génération vienne à te connaître. Nous t'avons prié en ton nom, Jésus. Amen. Alors, je vous rappelle les rendez-vous de cette semaine. On a d'abord ce soir avec le pasteur André à 19h, c'est l'étude biblique sur le livre d'Apocalypse. Si je ne m'abuse, on est rendu au quatrième saut, je crois, dans le chapitre 6 aussi. Donc, c'est une étude qui est enrichissante, qui permet parfois de lire ce livre qui est parfois un peu complexe et qu'on néglige parce que un peu plus difficile à saisir, mais notre bien-aimé, le pasteur André, fait tout un boulot en nous transmettant ce savoir et cette connaissance. Donc, soyons là à 19h. C'est disponible, bien sûr, sur la page Facebook de l'Église. Ceux qui n'ont pas la page Facebook et qui êtes connectés ce matin, vous savez déjà comment profiter de cela à travers la page Internet. Au bas de la page d'accueil, vous avez un onglet qui dit « Nous suivre via Facebook ». Alors, même si vous n'êtes pas un membre Facebook, vous pouvez accéder à la page Internet, à la page Facebook de l'Église et ainsi voir l'enseignement de ce soir, comme tous les autres enseignements aussi que nous vous apportons. Et puis, il y a aussi sur la page web, vous trouvez aussi les connexions pour la soirée Zoom. Donc, l'enseignement est aussi disponible sur la plateforme Zoom. Sinon, vous écrivez à secrétariat.eajc. À commercialgmail.com, secrétariat EAJC en un seul mot, @gmail.com, et puis vous demandez qu'on vous envoie le code et le code de la réunion et le mot de passe pour rentrer sur la réunion Zoom et vous pourrez le voir, mais sinon à travers Facebook. Les autres rendez-vous de cette semaine, donc à tous les matins, bien sûr, comme on a débuté ce matin, à 8h30, notre bénédiction matinale. Mercredi soir, on aura le pasteur Sergio pour une troisième étude sur la thématique « Servir Dieu en des temps de défi ». Donc, il a déjà entamé ça depuis 2 semaines, un temps enrichissant, et je crois approprié pour nous dans cette période qui est la nôtre, qui représente des challenges qu'on n'a pas eu à connaître jusqu'à présent. Aucun d'entre nous n'étions préparés à la crise de la COVID, au confinement, et encore moins au déconfinement, à ce qui arrive après. Donc, c'est intéressant d'entendre ce que le pasteur Sergio a à nous dire sur le fait de servir Dieu dans une période si demandante et si exigeante et si remplie de défis. Et enfin, vendredi soir, donc, notre soirée de prière et d'intercession à partir de 19h, toujours sur la page Facebook et autres. C'est l'occasion aussi de transmettre vos requêtes personnelles pour lesquelles on prie dans une partie spécifique de notre soirée, donc de 19h à 20h, vendredi soir, soirée de prière. Pour les jeunes gens, bien sûr, vous avez votre rendez-vous jeunesse. Vous avez dans l'affiche qui a été mise à travers les dernières heures sur les rendez-vous de cette semaine sur la page Facebook. Regardez, il y a une adresse électronique pour le département jeunesse. Donc, vous écrivez là-bas, vous donnez votre nom, votre âge, et les responsables jeunesse vont vous écrire pour vous donner accès à leur réunion Zoom pour eux, vendredi soir dès 20h. Donc, ça laisse le temps aux jeunes d'être rassemblés avec nous pendant la prière et puis à la fin de notre rencontre de prière de passer avec les jeunes gens pour ce temps de méditation et de partage totalement adapté ou spécifiquement adapté à leurs besoins. Alors voilà, c'était ce qu'on avait pour aujourd'hui. Simplement saluer quelques personnes qui se sont ajoutées. On a donc la sœur Maggie, Dieu vous bénisse. On a la sœur Denise Gaudreau, Dieu vous bénisse. Marcella, Soraya, cinq autres personnes, mais je ne sais pas c'est qui les 5 autres personnes, ça n'apparaît pas. Donc, bonjour à vous. On a aussi la hermana Susanna. Et puis, je pense que c'est tout ce que je peux voir de ce côté-ci. Je vais voir si, non, j'arrive pas à voir là. Je vais voir ici si je peux déchiffrer. Non. Donc, c'est tout ce que je peux saluer. Bien sûr, salutations à tous ceux qui sont connectés et qu'on ne voit pas. Donc, par le site Internet de l'Église, je sais qu'il y a la sœur Pascale habituellement, la sœur Léandra qui se connecte, la sœur Thomas qui se connecte aussi. Vous nous êtes toutes précieuses et puis on prie que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Le frère Gilles se connecte habituellement par là aussi. Donc, bénédiction au frère Gilles. Donc, sur ce, on vous souhaite une très belle journée. Que Dieu soit avec vous et soyez des champions pour le royaume de Dieu. Soyez des championnes pour le roi des rois et bénissez autour de vous et amenez des gens à rencontrer Jésus. Alors que Dieu vous bénisse et puis on se retrouve donc ce soir, 19h, pour l'étude biblique sur l'Apocalypse avec le pasteur André. Au revoir tout le monde, bonne journée.